Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
La nouvelle est tombée tard hier soir. L'ex-président américain Donald Trump fait face à de nouvelles accusations. C'est la quatrième série d'accusations aux criminels portées contre l'ancien président des États-Unis qui, je vous le rappelle, est le candidat dominant dans la course à l'investiture du Parti républicain. Donc, ce sont des accusations qui concernent, je dirais, la façon qu'il a tenté d'influencer le dépouillement du vote et le résultat du vote en Géorgie. Et j'insiste sur un angle ce matin qui est important. D'abord, il est accusé avec 18 autres personnes, toujours à peu près les mêmes individus, le même genre d'individus. L'ex-maire de New York, Giuliani, qui était son avocat. D'autres avocats sont aussi accusés. Son chef de cabinet dans ce dossier-là est accusé. En gros, ce qu'on reproche à M. Trump, c'est d'avoir, en quelque sorte, dirigé une organisation criminelle. Et c'est pas rien, là, parce que les chefs d'accusation et le libellé de ces accusations, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans des poursuites intentées contre des gens qui sont associés au crime organisé, à la mafia. Et j'entendais hier des analystes dire, c'est l'équivalent d'accuser un chef mafieux devant la justice. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, M. Trump? Au mois de janvier, il a appelé un responsable de l'État de Géorgie pour tenter de l'influencer. Et cet homme en question a enregistré la conversation. Et donc, dans cet appel au secrétaire de l'État de la Géorgie, alors qu'on se préparait pour le choix des grands électeurs, et ultimement, l'État allait dans le camp Biden, M. Trump a voulu faire, évidemment, renverser le vote. Et il a dit, et c'est sur bande magnétique, là, ça me prendrait un 12 000 votes. Êtes-vous capable de me trouver un 12 000, le 12 000 qui me manque? Et c'est là-dessus qu'on l'accuse de conspiration pour commettre des actes criminels. Les avocats de M. Trump ont réagi depuis le début en disant que M. Trump n'a pas demandé au secrétaire d'État d'inventer des votes. Et je vais reprendre le terme utilisé par les avocats de Trump. M. Trump n'a exprimé qu'un désir, qu'une aspiration, étant convaincu qu'il y avait eu malversation, qu'on avait mal compté les votes, et qu'en conséquence, il demandait ou partageait avec le secrétaire d'État son inquiétude sur la validité du processus électoral. En résumé, quatre séries d'accusations, des accusations qui aident actuellement le président Trump, l'ex-président Trump, dans les sondages. Il est nettement en avance pour ce qui est de l'investiture du Parti républicain, et lui se sert de toutes ces accusations pour dire quoi? Pour dire que c'est un complot, que la procureure de la Géorgie qui mène le dossier est une hystérique, une enragée, et que tout ça fait partie d'un vaste complot pour le faire taire et pour tenter de lui faire une jambette en vue de l'élection présidentielle. Alors que vous avez en parallèle le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui voit son dossier traîner. Il y avait une entente qui a été rejetée par un juge. On nomme un procureur spécial. Alors, on est dans cette mouvance actuellement aux États-Unis. Et on n'a jamais vu ça, là. Mais en même temps, c'est devenu comme habituel parce que quatrième série d'accusations. Alors voilà pour ce dossier. Je reviens rapidement sur ce cas de violence conjugale qui se termine par un arrêt de Jordan, donc, c'est-à-dire libération de l'accusé qui sort libre comme l'air. Et je pense que c'est important de noter deux choses. D'abord, le juge, ça fait pas son affaire, là, de dire à quelqu'un qui est accusé d'un crime grave, comme de la violence conjugale, les procédures ont été trop longues, la couronne a pas fait un travail adéquat, j'ai pas le choix. Un juge ne fait pas de loi. Un juge est là pour prendre les lois, les règlements et rendre sa décision. Et on se rend compte qu'à Laval, comme disait Bénédicte, il y a un problème. Un problème de disponibilité, un problème de ressources, et je dirais que c'est un problème chronique. Et on a beau, et là ça interpelle le ministre Jolin Barrette, on a beau dire qu'on a maintenant des tribunaux spécialisés, mais si on n'est pas capable de faire en sorte, je dirais que les procédures se fassent, puis qu'on n'ait pas une chaise musicale à la couronne, puis que ça permet à des individus de s'en sortir comme ça, ça faut pousser un peu plus la machine. Puis il y a des enjeux importants dans le système de justice, de personnel, d'équipement, de nomination de juges. Puis on a vu ce bras de fer avec la juge en chef de la Cour du Québec et le ministre, là. Les conflits d'égo puis les combats comme ça de personnalité. On peut pas dire que ça sert beaucoup la justice actuellement. L'autre chose importante ce matin. Quand on parle des milieux humides, on parle de milieux à protéger dans le cadre, évidemment, de la protection de l'environnement, mais ça sert à quoi des milieux humides? Puis il y en a partout, là, au Québec. Ça permet d'abord, on le sait, d'aider à faire en sorte que la nature, certaines espèces sont préservées. Ça permet de mener des combats contre les changements climatiques, les gaz à effet de serre, la pollution. Et ça a un effet pour protéger en cas d'inondation parce que ça absorbe de l'eau. Le Journal de Montréal publie ce matin les résultats d'une enquête qui démontre que 98%, pratiquement 100%, là, des demandes de changement, donc de lever la protection des milieux humides pour de la construction, sont autorisées par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement. Du mois d'août 2017 à décembre dernier, Québec a autorisé 1331 projets en milieu humide. Et la morale de l'histoire, pour que ça soit clair, là, si vous voulez construire au Québec, détruire l'environnement, puis construire en milieu humide, vous n'avez qu'à payer. Payer le prix. Et ça dépend de la structure, que ce soit commerciale, résidentielle. Même le gouvernement du Québec a obtenu des dérogations pour justement construire des maisons des aînés. Il y a quelque chose d'assez particulier de découvrir, puis on a tenté de parler au ministre Benoît Charrette, mais comme par hasard, il n'est pas disponible ce matin. Il y a quelque chose là dans le discours et dans les faits. Puis là, on nous laisse entendre qu'il y a énormément de pression d'exercer sur les fonctionnaires qui prennent les décisions. Si c'est pas une espèce rare qui est menacée, disons que le fardeau de la preuve là est plus au gouvernement qu'au promoteur qui veut s'établir. Bref, tu veux construire un Costco, tu veux construire des maisons, on va t'expliquer combien ça coûte de plus là, comme contribution à la nature, puis tu feras ce que tu voudras. Puis après ça, on a nos grands débats, puis je vais continuer tantôt avec d'autres exemples, là, nos grands débats sur l'importance de protéger les territoires, les espaces verts. On va parler d'eau dans quelques instants, de réchauffement de la planète. Mais en catimini, n'importe qui fait un chèque, c'est quasi un pot de vin dans le fond. Le gouvernement prend ton chèque, ils sont bien contents, puis fais ce que tu veux sur le territoire québécois. Je continue avec quelques nouvelles connexes. Je parlais tantôt de l'humidité. On pense que le mois de juillet, et ce sera confirmé, j'imagine, avec les chiffres à venir, là, est probablement le mois le plus chaud qu'on a connu, pas juste ici. Et ce sont des tendances qui vont être lourdes pour les prochaines années. Puis quand vous regardez, par exemple, ce qu'on a comme dernière nouvelle, situation du côté d'Hawaï, à Maui, pour être plus précisément, on est rendu à 99 morts recensés, 1300 personnes disparues après les incendies dévastateurs. Et hier, je parlais avec une journaliste française qui est là-bas, puis j'ai vu d'autres témoignages. C'est inimaginable ce qui s'est passé. Des gens même qui se sont retrouvés à la mer pour tenter d'échapper aux flammes, qui se sont filmés, et des enfants coincés dans des salles de cours. Et le feu qui a été propagé avec une vitesse en raison justement des vents, Et ça a balayé le centre de la ville, qui est un centre historique, très fréquenté par les touristes, par une population locale. Et là, on a découvert quoi? Problème avec les services d'urgence, problème pour sonner l'alerte, problème en approvisionnement d'eau avec les bornes fontaines. Ça, c'est la situation du côté d'Hawaï. Le feu dans la section des Pyrénées orientales, il y a des centaines d'hectares qui ont brûlé, notamment au sud-est de Perpignan, en France. État d'urgence décrété à Yellowknife en raison des feux là-bas. Une déclaration d'urgence qui va durer pendant 7 jours. Alors, la liste, quand même, est assez longue. Et puis, à Montréal, on a déposé un document concernant l'utilisation de l'eau potable. Et là, il faut savoir qu'à Montréal, on a des enjeux importants. On est probablement la ville qui perd le plus d'eau dans son système, qui est désuet. Et c'est aussi la ville qui consomme le plus d'eau potable. Je regardais les chiffres ce matin. C'est quand même des enjeux importants. Alors, il y a toute la question du vieillissement des infrastructures. La consommation d'eau à des fins résidentielles à Montréal, c'est 367 litres par jour. La moyenne canadienne, c'est 220 litres. Donc, on consomme. Et grosso modo, c'est 25% de la production d'eau potable qui est perdue dans ces conduites désuètes et qui doivent être remplacées. Morale de l'histoire, des milliards à venir d'investissement et deuxième couche de morale, êtes-vous prêt à payer plus? Parce que là, la ville commence à jongler avec des plans et là, on est dans les modes consultation en disant comment on va payer la facture, puis la ville ne pourra pas assumer ça tout seul. Mais c'est un autre exemple. Puis je le sais, je l'ai vu durant les vacances cet été, puis des auditeurs m'ont écrit dans, je pense, Hochelaga, il en était la troisième inondation en raison des pluies abondantes, parce que l'eau remonte, puis là, ça envahit ton sous-sol. Puis finalement, tu nettoies un peu, puis deux, trois jours, une semaine plus tard, encore des pluies abondantes, ça recommence. Ils comprennent pas que la ville peut pas maîtriser la situation. Fait que c'est sûr que ça va être un enjeu important. Et en parlant d'enjeux, on a vu hier cette décision du Montana, une juge, qui a donné raison à des jeunes qui, puis on a eu l'équivalent ici, mais la conclusion est différente. Mais donc, des jeunes qui sont allés devant le tribunal, un recours en disant, nous les jeunes, on va payer le prix de cette négligence qui fait en sorte que les changements climatiques sont drastiques et vont affecter notre futur. Et la Cour du Montana a donné raison à ces jeunes. Et là, il faut être quand même précis. On n'est pas dans une victoire qui va changer la Constitution américaine, là. On est dans une victoire sur un règlement où on n'avait pas à tenir compte dans l'évaluation de projets. Ça me fait penser un peu à nos milieux humides. À, par exemple, les gaz à effet de serre. Et là, ce que la Cour dit, ben, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de tenir compte de ces changements. Et c'est un procès qui a permis de documenter de façon rigoureuse l'impact des changements climatiques. Ici, ça a été rejeté par la Cour d'appel et ultimement, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre la Cour. J'ai parlé avec l'avocat qui a piloté le dossier. Ici, rapidement, dans les autres nouvelles, on a beaucoup parlé du prix de la bouffe, panier d'épicerie, les restaurants. Il y a eu beaucoup de commentaires hier des gens qui trouvent que ça coûte cher. Puis là, on voit que les consommateurs qui ont envie quand même de sortir un peu ou en tout cas de pas faire les repas de temps en temps. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que une des habitudes qui se développe, c'est que les gens achètent du prêt à manger à l'épicerie. Et les chaînes offrent de plus en plus de plats déjà préparés que t'as qu'à faire réchauffer. Et ça coûte moins cher que d'aller au restaurant, puis ça coûte moins cher que les chaînes, par exemple, où tu commandes. Alors c'est peut-être j'imagine qu'on a déjà compris ça là, chez Metro, chez Provigo, chez IGA, mais ça, c'est clair. Également, autre nouvelle, Justin Trudeau veut couper dans les dépenses. Là, M. Trudeau, dit le Globe and Mail, a passé une commande au ministre du cabinet fédéral de réduire d'ici le 2 octobre à peu près 15 milliards dans les dépenses. Alors, M. Trudeau n'est pas reconnu pour un gestionnaire habituellement qui tient les cordons de la bourse bien serrés. Mais là, on est en train de faire l'exercice. Et puis, je termine un article assez particulier ce matin. Dans Le Devoir, concernant des influenceurs qui sont inspirés par des vedettes américaines qui s'adressent aux gars. Et que les gars sont incompris. Que les gars, on est dans une société où il n'y a pas de place pour les hommes, que les hommes sont pas capables d'exprimer ce qu'ils vivent. Et vous avez tous ces influenceurs qui sont des jeunes, qui peuvent être assez radicaux de temps en temps. Et je pense que l'homme est mieux quand il est un pourvoyeur, dit un de ces influenceurs qui s'appelle Racicot, quand il peut protéger. Je pense que quand il pourvoit, qu'il protège sa femme, c'est ce qu'il fait de mieux. Et c'est donc une espèce de discours des vieilles traditions ou des valeurs un peu plus anciennes. Et ce sont des jeunes de 20 ans, là, 20, 25 ans, qui ont ce discours-là et qui se sentent étouffés. Je trouve ça quand même intéressant de voir un peu cette lecture qu'ils font, là, de dire que le système n'est pas fait pour les gars. Je l'entends, vous l'entendez. C'est pas à cette heure-ci qu'on va faire un grand débat, là, mais quand même, j'attire votre attention, c'est dans Le Devoir de ce matin. Et puis un mot pour conclure, c'est la fête nationale de l'Acadie aujourd'hui, et nous saluons, ils sont nombreux, tous nos amis de descendance acadienne.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Québec a mis sur pied un programme qui s'appelle Agir tôt, qui est un programme qui vise à détecter les problèmes potentiels chez les enfants de moins de 5 ans. Évidemment, l'objectif, c'est d'intervenir tôt, leur offrir des ressources et les aider le plus possible alors qu'ils sont en bas âge. On sait qu'officiellement, version de Québec, là, il y a 20 000 enfants québécois qui ont été dépistés. L'autre question, c'est sont-ils capables d'avoir les services? Ben beau le dépistage. Mais ce matin, je vous présente un cas. Et c'est un cas où on est toujours en attente pour du dépistage. Et les parents doivent faire face à une réalité. Notre invitée s'appelle Stéphanie Perrault. Elle est mère de 3 enfants qui ont visiblement des besoins particuliers. Madame Perrault, bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi de vos 3 enfants. Vous avez une fille et des jumeaux.
Oui, absolument.
OK, votre fille a 3 ans, puis les jumeaux ont 2 ans.
Oui, exactement. Là, cet automne, dans le fond, leur anniversaire, là, Magali va avoir 4 ans, et puis les jumeaux, en novembre, vont avoir 3 ans déjà.
OK. Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin particulier, selon vous? Là, je précise, vous attendez toujours un diagnostic.
Oui, absolument. Ben en fait, on n'a aucune communication verbale au quotidien. Là, c'est difficile là, même de demander là, tu sais, pour boire ou pour manger quelque chose. Ou on doit deviner pas mal tout le temps. Les nuits sont difficiles aussi. On a des problèmes de sommeil. Puis de désorganisation. Là, c'est sûr, on ouvre le frigo en pleine nuit. Et puis on détruit un peu tout dans la maison finalement. Là, c'est pas évident.
OK. Et quand si on prend les enfants de façon séparée, là, si je prends votre fille, quand vous regardez ça, vous me parlez de son comportement, vous dites que elle est non-verbale, elle a 3 ans, elle parle pas, elle se comporte de quelle façon?
Elle est dans son monde, elle émet des sons d'une variété assez impressionnante. Elle agite les bras, les mains, elle a le regard perdu, mais on voit qu'elle a quand même comme un certain contact, pas avec nous. Tu sais, le visuel est très difficile à avoir avec Magali. Donc, c'est ça. C'est une petite fille qui est très, très charmante et qui peut être enjouée. Mais c'est ça. On voit que vraiment, elle est pas, elle se comporte pas de façon normale, si je peux me permettre. Là.
OK. Puis dans le cas des jumeaux?
Ah, ben les jumeaux, Xavier se roule la tête constamment de gauche à droite. Ça peut être sur une table, ça peut être dans la neige, ça peut être à tout moment de la journée ou de la nuit. Il y a des fois où ça peut faire rire aux éclats. Puis il y a d'autres moments où il semble complètement perdu là, dans un univers parallèle au nôtre. Pour William, par contre, c'est un peu mieux, c'est plus léger, mais on parle toujours pas, puis on veut imiter beaucoup la petite sœur, la grande sœur. Et on s'est fait dire aussi que dans le cas de William, on veut voir si justement il n'y aurait pas un certain lien avec l'autisme, puisque les hypothèses ont été évoquées pour les deux frères et sœurs et que lui était le jumeau. Donc là, on nous dit que ça présente pas beaucoup de chance finalement qu'il n'y ait rien du tout, là, tu sais.
En résumé, les professionnels qui sont intervenus, puis il n'y a pas de diagnostic, je le rappelle, là, pensent que c'est peut-être un trouble du spectre de l'autisme associé à des problèmes de comportement, de langage, de sensibilité, par exemple.
Oui, exactement.
Vous avez consulté, j'imagine, pédiatre. Comment vous avez suivi le parcours à travers le réseau de la santé avec vos trois enfants?
Ben en fait, Magali, mon Dieu, elle avait un an. On a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc là, on a essayé justement avec le pédiatre qui voyait à l'époque de voir c'était quoi le cheminement parce qu'on savait pas trop où s'en aller, quelle porte cogner. Puis là, on nous a rapidement dit que, ben écoutez, en bas âge, faut faire attention là, faut laisser le temps aussi à l'évolution. Puis dans le fond, de toute façon, ça va être un jour là de s'inscrire au guichet d'accès si jamais. Les problèmes persistent parce que ça se fait plus ça, là, essayer de remplir avec le pédiatre comme ça en privé une espèce de grille évaluatoire ou peu importe. Là. Donc là, nous, on a continué de nos recherches, voir dans le fond comment fonctionner avec le guichet d'accès. On a rempli un formulaire, répondu à des questions. Puis là, je vous parle de ça, là, Magali, comme je vous dis, elle a un peu plus d'un an, là. Et puis, finalement, on nous a contactés en août 2021 avec une lettre pour nous dire que, ben oui, OK, on va admettre Magali dans le fond, dans le système, hein? Parce qu'on n'était pas tout de suite avec les experts, c'est sûr. Et là, on n'a pas eu de service, dans le fond, avant environ septembre 2022. Donc, ça, c'est assez récent, là. Mais là, par service, j'entends simplement, justement, intervenant psycho-éducatrice là, qui vient tout juste d'arriver dans le dossier. Mais encore là, on remplit des grilles d'observation, on fait des plans d'intervention et c'est erreur. Puis on nous dit que peut-être à l'hiver, Magali pourrait voir l'équipe multidisciplinaire. Les jumeaux, ben on attend. On attend. On est en liste pour agir tôt. Ils nous ont dit là que c'est ça, fallait suivre un peu le même parcours, mais on sait pas quand on va pouvoir avoir des experts.
OK. En résumé, là, vous avez un peu d'aide là, des professionnels qui sont des gens bienveillants, de bonne foi, là, j'insiste, là, qui
oui,
interviennent.
Oui, oui, oui.
C'est pas ça la question. La question, bon. C'est que vos enfants peuvent pas avoir de l'aide de façon spécifique tant qu'on n'a pas établi un diagnostic.
Exactement, parce que c'est quand même assez large, là, les spectres de l'autisme. C'est chaque enfant a des besoins différents, évidemment. Fait que c'est justement, on veut arrêter d'aller dans le général puis de faire des tests. Ce serait bien d'avoir vraiment un profil par enfant pour répondre vraiment à leurs besoins spécifiques à eux et puis emboîter le pas, là, dans le fond, pour avoir des solutions pour la communication puis quotidien harmonieux, les aider à évoluer, tu sais, malgré la maladie.
Puis là, vous avez trois enfants qui ont en tout cas des besoins particuliers. On va prendre le générique là pour résumer, mais vos enfants ont besoin d'aide, ont besoin d'intervention professionnelle. Puis l'objectif du programme, c'est de dépister tôt pour agir tôt.
Exact.
Dans votre cas, c'est le dépistage tarde, puis on agit lentement.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis on fait juste, dans le fond, un cri du cœur ce matin parce qu'on se dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est vraiment normal? On parle du 0-5 ans qui est super important, mais moi, Magali va avoir 4 ans au mois d'octobre. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une route plus claire à suivre? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Puis, premièrement, vous n'êtes sans doute pas la seule dans une telle situation, là, parce qu'il y en a d'autres, mais vous prenez la parole ce matin, puis je veux le préciser, là. Vous dites, moi, je veux pas, là, passer devant des gens qui attendent. Mon idée, vous voulez intervenir pour aider vos enfants, tout simplement, là.
Exactement, puis peut-être aussi aider d'autres familles dans le même problème, là, si on veut. C'est ça mon plus grand souhait, là, dans le fond, c'est de faire avancer les choses pour nous, pour aider les enfants, puis aussi d'autres familles dans le même besoin.
Est-ce que je comprends aussi que vous habitez la région là, de Saint-Lin-Laurentide? Oui. Normalement, vous allez à Joliette à l'hôpital, mais là, vous êtes en train de magasiner les hôpitaux pour voir s'il n'y a pas une façon peut-être plus rapide d'avoir du service.
Ben en fait, c'est que on était avant associés justement au 6 là, au niveau de la rive nord, pas de la rive nord, mais bien de, pardonnez-moi, de Joliette et Saint-Julien, ces coins-là. Là, on nous a suggéré, dans le fond, d'aller peut-être au sud, plus dans le coin de Terrebonne, de transférer Magali là, parce que les jumeaux pourraient être reçus là éventuellement. Puis là, bon, s'assurer naturellement de ne pas retarder le processus. On nous a garanti que non. Puis qu'il y allait continuer d'avoir des intervenants là, en attendant chaque semaine pour venir essayer du mieux qu'on peut d'aider. Alors, c'est ce qu'on fait pour l'instant. On est transféré là, puis on attend.
Je voudrais aborder un volet qui est plus délicat, qui est le volet financier. Vous êtes en couple avec le père des enfants et tout ça. Vous avez laissé tomber votre travail, vous n'aviez pas le choix avec les trois enfants, puis votre mari est un livreur pour une entreprise, là, ce qui ajoute au fardeau des enfants, là, puis l'incertitude, puis la recherche de services, un stress financier quand même. Là.
Oui, oui, absolument, parce qu'on a juste une rentrée de salaire, dans le fond. Fait que c'est pas facile de pallier à tout ça. C'est sûr que aussi avec le contexte économique actuel, ça rend pas la tâche facile, mais c'est évident que ces enfants-là aussi, des fois, on nous propose d'essayer certains trucs. Bon, ben, faut acheter, mettons, un vibromasseur, faut essayer, tu sais, il y a des choses. Donc, tout ça aussi a un coût. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Puis on habite une maison, on voulait leur offrir aussi naturellement de l'espace. C'est quand ça se met à faire des sons aussi, hein, c'est quelque chose à vivre en public. Fait que dans ton quotidien, chez toi, ben on souhaite toujours être tranquille un peu pour vivre ça. Fait qu'on n'avait pas le choix.
Vous m'avez écrit là que puis je le fais là, comme on dit, en vous écoutant puis en prenant des notes. Mm-hmm. Il y a aussi une question d'épuisement pour les parents qui vivent ça, là. Puis qu'à un moment donné, là, oui. C'est un paquet de facteurs, là. Je viens de parler du stress financier, là. Mais oui. Les enfants qui se réveillent la nuit, qui se désorganisent, oui. Qui crient, ça devient lourd.
Oui, absolument. Puis sans compter qu'on est toujours à l'écoute, on est toujours sollicité, parce qu'avec trois enfants bas âge aux couches qui parlent pas, juste ça de base, c'est quand même une mission en soi. Fait que c'est toujours un peu d'être sur le qui-vive, puis c'est épuisant émotionnellement. C'est sûr qu'au niveau du couple, ben une chance qu'on est très très amoureux puis qu'on s'aide là-dedans, on est une équipe, mais ça aussi, on devient plutôt une équipe de parents, tu sais, qui doit mener à front ce défi-là, tu sais. Fait que ça devient difficile, c'est sûr et certain. Puis mon conjoint quitte tôt le matin, vous l'avez dit, il y a un emploi quand même assez physique aussi. Fait que c'est ça, c'est tout ça.
Merci d'avoir partagé ce que vous vivez pour de très bonnes raisons. D'abord pour parler de votre situation, mais qui va sans doute, je suis convaincu, là, toucher beaucoup de parents qui vivent ça également. Puis ce qu'on mesure ce matin, c'est entre le discours officiel, là, puis les coms bien patentés du ministère de Lionel Carman, il y a une réalité terrain qui est pas tout à fait celle qu'on nous présente au quotidien. Merci beaucoup, Mme Perrault, d'avoir fait ça avec
merci
nous ce matin.
Merci à vous. Merci à vous, M. Arcand.
Merci, bonne journée.
À vous aussi.
Stéphanie Perrault est mère de trois enfants que je vais identifier comme des enfants à besoins particuliers parce qu'elle est dans l'attente d'un diagnostic. Puis l'attente d'un diagnostic, c'est pas banal. D'abord, ça permet de cibler la bonne façon de faire avec les enfants. Puis là, les enfants ont un peu d'aide. Mais c'est essai-erreur, là. Puis ces parents-là en ont trois. Qui ont des besoins particuliers. Là, quand on est rendu à les promener d'un 6 à l'autre, en disant peut-être qu'à l'autre 6, ça va être plus facile. On vous dit que personnellement, là, je trouve ça inacceptable. C'est pas aux parents de magasiner les ressources. C'est aux ressources de s'adapter aux besoins des parents. Et dans ce cas-là, là, il y a des enjeux financiers parce que ça prend un diagnostic pour avoir de l'aide financière. Il y a un paquet, puis je pense qu'on vient de le démontrer. Mais quand on me sort des grands discours, puis tout le monde est bienveillant, puis tout le monde est bonne foi. Nous avons dépisté 20 000 enfants, c'est extraordinaire, OK? C'est quoi le suivi? Puis il y en a combien d'enfants qui attendent? Puis comme vous venez de voir avec Mme Perrault, ça fait quand même longtemps qu'ils attendent, qu'ils sont patients pour essayer d'avoir au moins une réponse. Ils ont quoi, mes enfants? Puis comment on fait pour les aider?
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On commence à être habitué, mais en même temps, c'est saisissant et surréaliste. L'ex-président Donald Trump, qui a été formellement accusé avec d'autres personnes en Géorgie, d'avoir pratiquement dirigé une organisation criminelle pour tenter de garder le pouvoir. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans son cas, on a utilisé des dispositions de la loi qui, normalement, servent pour inculper des chefs mafieux. Donc, M. Trump, qui a téléphoné au secrétaire d'État pour tenter de renverser le vote et de faire en sorte que la Géorgie bascule du camp Biden vers lui. Charles-Philippe David est avec nous. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, donc, ce sont encore une fois des accusations, c'est la quatrième vague. Et là, disons que les accusations sont non seulement sérieuses, mais vraiment, on associe M. Trump à une organisation criminelle.
Tout à fait, Paul. Alors, voilà notre nouvelle saison, n'est-ce pas, Paul, qui débute avec, donc, le quatrième procès de Donald Trump. Il est même possible qu'il y en ait d'autres encore qui se pointent à l'horizon, mais celui-ci, celui de Géorgie, et est-ce qu'on se répète en disant « il est très sérieux » ? Il est au moins, en tout cas, aussi sérieux, voire plus encore, que celui de Jack Smith, le procureur spécial du ministre de la Justice américain, dans l'enquête sur l'émeute du 6 janvier 2021. Encore plus sérieux, la Géorgie, pour deux bonnes et très excellentes raisons que tu as mentionnées, Paul. Mais la première, c'est que, d'abord, ce n'est pas que Donald Trump qui est inculpé ici. On parle de 11 autres individus. Donc, en tout, 12 individus qui seraient inculpés. C'est plus encore que le procès fédéral de Jack Smith. Et à ce moment-là, ça va donner lieu à un procès plus spectaculaire parce que ce n'est pas encore confirmé, mais il se pourrait qu'ils soient tous traduits ensemble. Et évidemment, la deuxième raison, tu l'as mentionné, c'est que la Géorgie est un État qui a des lois extrêmement sévères d'inculpation, de procès, de conduite judiciaire, du processus d'inculpation. Et juste par exemple, le fait que ce procès pourrait être télévisé. Voilà quelque chose qui change complètement la donne, peut-être, ou certainement en pire pour Donald Trump, ou peut-être en mieux pour lui auprès de ses partisans, mais en tous les cas, disons que ça va donner, durant la campagne électorale, un procès haut en couleur s'il, effectivement, il est télévisé, ce qui est dans l'habitude des procès en Géorgie. Et puis enfin, c'est un procès, oui, tout ce qu'il y a de plus criminel. J'ai comparé ça un peu hier soir en regardant la nouvelle tombée très tard. Je me suis dit, on est à peu près dans les similitudes avec Al Capone. C'est vraiment un procès de corruption, de tentative d'extorsion, de manipulation, de désinformation et surtout d'influence auprès des officiers électoraux de ce comté dans lequel se déroule cette accusation, le comté de Fulton, qui est le comté dans lequel on retrouve la ville d'Atlanta, la grande ville donc de Géorgie. C'est tout ce qu'il y a de plus toxique pour la cause de Donald Trump. En plus, la preuve est entendue par tout le monde, c'est-à-dire cette demande qu'il a faite auprès du secrétaire d'État de Géorgie de lui trouver 11 787 voix, une de plus qui lui permettrait donc d'être élu en Géorgie. Confirme effectivement que cette loi anticorruption est tout à fait pertinente dans son cas.
Charles-Philippe, ce qui est absolument hallucinant quand on regarde à la fois la nature des accusations, la preuve qui est présentée, c'est que Trump, qui, je le rappelle, est en avance et confortablement en avance dans la course à l'investiture du Parti républicain, utilise toutes ces accusations comme des munitions. C'est comme si un candidat qui fait face à 4 procès se trouve avec des ressources additionnelles. C'est comme si les gens disaient, c'est encore un complot contre lui, il faut le soutenir.
Et Paul, ça lui sourit à chaque fois, j'ai le goût de te dire, chaque procès lui rapporte au moins 8 points de sondage de plus auprès de ses partisans. Évidemment, j'entends bien là, auprès des électeurs et des électrices du Parti républicain. Alors imaginez, on était parti avec 30 points d'avance sur Ron DeSantis. Le dernier sondage d'hier de 538, qui est un composite de sondage, lui donnerait, tenez-vous bien, 50 points d'avance sur son principal rival. Donc oui, chaque procès semble renforcer chez les partisans de Donald Trump la croyance que c'est une poursuite, non pas une poursuite judiciaire, mais une chasse aux sorcières, parce qu'il surnomme non pas le ministère de la justice, mais le ministère de l'injustice. Donc le narratif de Donald Trump triomphe auprès de ses partisans.
Charles-Philippe, merci beaucoup, toujours pertinent. Charles-Philippe David, qui est, vous le savez, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Juste pour une dernière note au dossier, les avocats de Trump, le discours, là, le narratif, comme on dit, c'est M. Trump n'a pas voulu influencer le secrétaire d'État. M. Trump lui a fait part de ses aspirations. Les avocats sont extraordinaires pour trouver des trucs comme ça. Alors, c'est le discours en disant il n'a pas fait une demande, il n'a pas mis de pression, il a expliqué qu'il aurait été heureux qu'on puisse comme ça faire basculer les choses. Maintenant, il y a une décision qui a été rendue aux États-Unis. C'est une décision importante, en tout cas très symbolique. C'est une juge de l'État du Montana qui donne raison à des jeunes qui disaient que leurs droits constitutionnels étaient bafoués par le refus du gouvernement de leur assurer un environnement propre et sain. Et on a vu ça ailleurs dans le monde, des regroupements de jeunes qui tentaient de démontrer légalement la responsabilité des gouvernements qui n'ont pas protégé leurs droits face au changement climatique. Il y a eu une cause qui a été entendue au Canada. La Cour suprême a refusé de l'entendre il y a quoi, près d'un an maintenant. Et j'ai parlé avec Maître Bruce Johnston qui a piloté justement le dossier ici au Canada. Maître Johnston, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, on va parler de la cause canadienne un peu plus tard, mais qu'est-ce que vous comprenez de cette décision de l'État du Montana? Première analyse, puis quelles sont les conséquences, vous croyez?
Bien, en première analyse, on peut dire que c'est un cas assez particulier parce que l'attaque visait une loi spécifique au Montana dans laquelle on interdisait aux agences qui sont responsables de faire l'évaluation environnementale de tenir compte des effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est vraiment une loi qui était extrêmement problématique parce que à quoi sert une évaluation environnementale si ce n'est que de constater quels effets pourraient être causés en termes de protection de l'environnement. Et donc, la deuxième chose qui est spécifique au Montana, mais similaire au Québec, c'est que dans leur constitution, même si c'est un État qui est assez républicain dans sa politique, il y a aussi une fibre environnementaliste qui date de très longtemps. Depuis 1972, le Montana a inscrit dans sa constitution le droit de vivre dans un environnement sain. Mais c'est également vrai au Québec. C'est également protégé dans notre charte, à l'article 46.1. Et donc, en termes de conséquences pour l'État, c'est simplement de donner le pouvoir aux agences d'évaluation environnementale de faire leur travail convenablement. Mais en termes symboliques, je pense que ça peut avoir des effets beaucoup plus importants parce que c'est un problème qui est très complexe, mais en même temps tellement important et existentiel qu'il y a des efforts partout pour essayer de trouver une poignée juridique. Et les tribunaux, dans plusieurs pays, ont constaté que oui, c'est leur travail d'entendre ce genre de dossier-là.
Mais je vais vous amener sur un point, parce que évidemment une décision aux États-Unis n'amène pas de la jurisprudence au Canada. Peut-être nous rappeler un peu cette démarche de ce groupe là, d'environnement jeunesse, et pourquoi, selon vous, la Cour suprême n'a pas voulu entendre la cause?
Mais il y a, l'environnement jeunesse plaidait de façon assez similaire que le défaut par le gouvernement du gouvernement fédéral d'établir des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui étaient conformes à la science violait les droits constitutionnels des jeunes du Québec. Violait notamment le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, mais aussi leur droit à la sécurité de leur personne. Et je dirais que avec l'été qu'on a connu, la démonstration est plus facile. Là, on l'a on l'a devant les yeux, là, le pays brûle. Il y a 5 ans, quand on a pris la cause, on plaidait déjà que la science démontrait que le réchauffement climatique, les changements climatiques posaient déjà des menaces pour la santé et la sécurité. Mais c'est plus facile à le voir quand le pays brûle, disons.
Est-ce que vous croyez que c'est possible de reprendre le débat, de déposer une nouvelle requête? Est-ce que c'est un des scénarios qui est pensable?
C'est absolument pensable. Et c'est tous les problèmes de société se retrouvent tôt ou tard devant la Cour suprême. Et nous, on n'a pas trouvé le bon moyen la première fois. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être recommencé, parce que je pense que c'est important. On parle de... J'entendais votre segment précédent. La confiance dans notre système de justice, c'est essentiel dans un État de droit. Et c'est le rôle des tribunaux que de déterminer si les droits constitutionnels des gens sont violés par les actions ou l'inaction gouvernementale. Et l'action d'environnement jeunesse n'a pas fonctionné, mais je pense que c'est une occasion ratée. Et je pense que il y en a d'autres qui ont été aussi voués à l'échec jusqu'à maintenant au Canada, mais je suis certain que ce n'est pas terminé.
Soyons clairs pour les auditeurs, les auditrices ce matin. Quel est l'objectif recherché d'une telle démarche? D'amener des changements de loi, d'amener le fédéral à changer les règles? Qu'est-ce que vous cherchez?
En fait, c'était... Et c'est une bonne question, parce que c'est là où les tribunaux ont la difficulté à se saisir de ce type de dossier-là, parce que c'est un problème qui est simple sur le plan factuel et scientifique. La science est absolument incontestable, mais très complexe sur le plan de comment le régler, parce que ça dépend de l'action de tous les paliers de gouvernement et de tous les pays. Et il y a une réticence à se saisir d'un dossier comme ça, parce que notamment, ça implique des décisions qui sont à la fois politiques et qui visent l'allocation de ressources. Les tribunaux sont, avec raison, réticents à dire au gouvernement « vous devez dépenser les ressources de telle façon ou de telle façon ». Et c'est effectivement le rôle des tribunaux, des politiciens dûment élus, que de prendre ce type de décision-là. Mais quand, en tant que société, on s'est doté de lois fondamentales qui comprennent la protection des droits, à ce moment-là, c'est absolument le rôle des tribunaux que de décider si l'action ou l'inaction du gouvernement est conforme à ces droits fondamentaux-là. Et ce qu'on cherchait, et ce que je pense doit être recherché, c'est une évaluation de l'action ou de l'inaction du gouvernement. Quand le gouvernement nous donne un objectif de réduction, ça va encadrer l'ensemble des efforts. Mais si l'objectif est en soi manifestement déraisonnable, parce que incapable de réaliser l'objectif, qui est d'éviter un réchauffement dangereux, bien, ça constitue une violation. Et donc, c'est un rôle qui est tout à fait approprié pour les tribunaux que de dire au gouvernement, bien, votre objectif en termes de réduction de gaz à effet de serre est inacceptable, il est déraisonnable et constitue en soi une violation des droits de la personne.
Merci beaucoup, Maître Johnston. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Maître Bruce Johnston est l'avocat qui, il y a quelques années à peine, a piloté ce dossier. On est allé cogner à la Cour suprême et la Cour a refusé d'entendre la requête qui avait été rejetée par la Cour d'appel. On retrouve Marc. Comment ça va sur le réseau?
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, on va parler d'infrastructures ce matin, des infrastructures à Montréal concernant l'eau. On l'a vu durant les dernières semaines avec, bien sûr, l'impact des changements climatiques, les pluies abondantes, les accumulations d'eau, des gens qui ont été inondés à plusieurs reprises. Montréal qui fait le constat, et c'est un constat qui est depuis plusieurs années là très clair, là, les infrastructures sont vieillissantes, faut changer les conduites d'eau. On se rend compte également, chiffre à l'appui, que la consommation d'eau à des fins résidentielles à Montréal, c'est à peu près 360 litres par personne par jour. Ce sont des chiffres qui datent d'il y a 3 ans, alors que au Canada, c'est 220 litres. Évidemment, quand on fait un tel constat, c'est clair qu'il y a des investissements à faire. Il faut mettre des milliards de dollars pour avoir des conduites maintenant qui soient plus efficaces, qui aient de moins, en fait, que les pertes soient moins importantes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Montréalais? Maya Vodanovic est avec nous. Elle est responsable de la concertation avec les arrondissements sur la question de l'eau. Madame Vodanovic, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, le premier constat, là, si on donne le portrait, le diagnostic aux auditeurs montréalais ce matin, là, vous faites une évaluation à combien de milliards de travaux à faire là, pour mettre la ville à niveau?
C'est pas juste moi qui le fais, c'est vraiment les chiffres à l'appui par le service de l'eau de la Ville de Montréal, des rapports qui sont donnés annuellement au gouvernement du Québec, pour remplir toutes les normes exigées par le gouvernement, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire à la ville, il faudrait investir 1 milliard par année. En ce moment, on investit 500 millions à peu près, mais on est passé d'investir 20 millions au moment des fusions, on a monté à 60, à 230, là c'est rendu 500, puis il faut investir encore plus. Alors, tout un enjeu de défi devant nous.
OK. Je vous pose une autre question de chiffres, là. Quel est le pourcentage des conduites d'eau de Montréal qui sont actuellement, j'allais dire, en fin de vie, là, et qu'il faut remplacer assez rapidement?
Il y en a 8 % Il y a 8 % qui sont en fin de vie, mais avec le temps, si on continue d'investir juste 500 millions par année, ben, ça va aller à 12 % de vieillissement, puis de 25 à 3. Je sais que c'est pas la même chose pour les égouts et les aqueducs, là, mais un ou l'autre, ça va continuer à augmenter.
Est-ce que vous avez une explication pour comprendre pourquoi les Montréalais consomment plus d'eau potable que des citoyens de d'autres villes?
Je pense qu'on a l'impression que l'eau est abondante. Hein. On est entouré du fleuve. On pense que l'eau est gratuite, là. Mais on s'en rend pas compte qu'acheminer l'eau à notre robinet, là, pour qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, il y a de l'eau en abondance puis en bonne qualité, ben ça prend une infrastructure qui, en ce moment, est évaluée à 33 milliards de dollars. Et cette infrastructure, il faut la garder en bon ordre.
Oui, mais en même temps, là, les gens dans les autres villes aussi, ils boivent de l'eau, ils prennent leur douche. Il y a des règlements qui existent, je pense à des villes autour de Montréal, concernant l'arrosage. Oui. Il y a quand même des mesures qui ont été prises, mais visiblement, c'est pas suffisant, là.
Ben, il faudrait plus sensibiliser les gens que effectivement on en gaspille plus qu'ailleurs. Mais il y a aussi une question de fuite. Hein? Il y a des fuites sur le réseau montréalais, mais il y a aussi on estime à peu près 20% des maisons qui ont des fuites. Des fois peut-être des fuites imperceptibles, mais souvent t'as un petit robinet qui coule, une toilette qui coule. Mais une toilette qui coule, ça peut gaspiller jusqu'à 1000 litres d'eau par jour. Alors, puis une petite fuite dans une maison, c'est 500 litres d'eau par jour. Alors, ça s'accumule.
Si je comprends ce que vous me dites, là, clairement, ça veut dire que c'est pas nécessairement parce qu'on gaspille l'eau volontairement, c'est qu'on a des vieilles infrastructures ou des trucs plus ou moins fiables qui font qu'il y a des pertes importantes. Là, c'est quoi, 25 % de la production d'eau?
Oui, ça fait partie de l'équation. Ça fait des années qu'on améliore notre réseau et que les pertes diminuent. En fait, on en a moitié moins aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça qu'on va en consultation publique d'ailleurs le 24 août, là, il va y avoir une présentation du document de consultation. Il va y avoir un sondage public jusqu'au 4 octobre. Et on veut entendre les gens parce qu'on a plusieurs défis. Il faut réparer nos tuyaux, il faut réparer nos usines, il faut aussi contrer les changements, contrer les inondations, rendre nos villes plus résilientes. Alors, on veut voir vraiment qu'est-ce que les citoyens, où est-ce qu'ils veulent que leur ville investisse le plus? C'est quoi leur priorité?
Ça, je comprends, mais il y a une autre question. Est-ce que dans votre enquête, dans votre sondage, vous allez mesurer, j'allais dire, des outils additionnels de taxation, de compteur d'eau, de modification de la taxe d'eau, si vous allez aller chercher de l'argent quelque part, là?
Ben, la question est entière, hein? Puis nous, on veut respecter la capacité payée de nos contribuables, hein? Et puis c'est pour ça que le 7 septembre, on organise un sommet sur la fiscalité en général. Alors, comment, parce qu'on voit, vous savez, avant, le gouvernement supérieur, ils aidaient la ville avec, ils payaient à peu près 60% de nos infrastructures. Ils nous aidaient avec ça. Aujourd'hui, ce pourcentage est plus vers 30-40%. Le reste est payé exclusivement par la municipalité. Alors, il y a des choses à faire. On a commencé, ça fait 10 ans qu'on installe des compteurs d'eau dans les ICI, dans les industries, là. Il y en a eu 20 000. Ça nous a pris 10 ans, ça a coûté plusieurs millions de dollars et à partir de cette année, on va commencer à les facturer. Alors ça c'est un aspect,
okay,
mais
exemple,
dans un million de maisons.
Ouais, oui. Je fais une parenthèse là. Pensez-vous à installer des compteurs d'eau dans les résidences?
Non. On ne considère pas ça. Je veux dire, on va quand même écouter les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais pour l'instant, installer des compteurs d'eau sur presque un million de résidences, c'est pas dans les cartons parce que ça va coûter extrêmement cher et on préfère la sensibilisation à ce point-là puis se focusser sur la réparation de notre infrastructure des égouts qui fuient et aussi si les citoyens pourraient se concentrer sur leur propre maison puis savoir pour qu'ils investissent dans les petits bris parce que c'est vraiment ça nous coûte collectivement.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Maya Vodanovic, qui est la responsable de la concertation avec les arrondissements, dans le dossier de l'eau. Puis quand on parle de compteur d'eau, ça nous rappelle certains scandales qui ont éclaboussé la ville de Montréal il y a pas si longtemps. Je vais demeurer un peu sur la même thématique parce que le Journal de Montréal publie ce matin des données concernant les milieux humides au Québec. En résumé, de 2017, le mois d'août, jusqu'en décembre dernier, Québec a autorisé 1331 projets en milieu humide. En échange de quoi? D'un chèque. Si je résume. Et là, on parle de projets de construction, là. Un centre commercial, du résidentiel, paraît-il que même des maisons des aînés ont été construites sur des terrains humides. Et tout ce que les promoteurs ont à faire, c'est de présenter une requête. Et dans 98 % des cas, c'est accepté. Et on fixe un montant. C'est 8 000, c'est 10 000, c'est 20 000 que le promoteur paie pour détruire des milieux humides. Il y a trois questions. La première, il faut rappeler pourquoi c'est important de protéger des milieux humides. Deuxième question, comment ça se fait qu'on arrive à 98 % Puis la troisième question, est-ce que il y a des pressions qui sont exercées sur les fonctionnaires du ministère de l'Environnement? Autrement dit, est-ce qu'ils sont libres de prendre des décisions ou si de facto, c'est presque, comme on dit, une procédure un peu bidon, là, où on ne fait que estampiller la requête qui est présentée? J'en parle avec Stéphanie Pellerin, qui est botaniste au Jardin botanique de Montréal et qui est également chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale. Madame Pellerin, bonjour.
Oui, bonjour.
La première question, là, d'abord, définir c'est quoi un milieu humide puis à quoi ça sert?
Oh, un milieu humide, pour faire simple, c'est un écosystème où on trouve en permanence ou semi-permanence de l'eau. Donc, le sol, la végétation est influencée par la présence de l'eau. À quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Entre autres, ce sont des puits de carbone, si on pense aux tourbières. Ça accumule plus de carbone que la forêt amazonienne. C'est des zones tampons pour les inondations. Ça évite les inondations, ça évite les sécheresses. Donc, c'est un peu comme des grosses éponges qui accumulent l'eau, qui nous la redonne quand on a besoin et qui la garde quand on en a trop, en fait. On peut simplifier, là.
Et diriez-vous qu'au fil des ans, on a détruit beaucoup de milieux humides au Québec?
En fait, si on prend des estimations là, historiques, là, on parle de facilement entre 60 et 80 % des milieux humides qui étaient présents là au début de la colonisation, qui sont disparus. Si on retourne plus récemment, dans une étude qu'on a faite en 2003, sur une période de 20 ans, on a montré que dans le sud du Québec, là, les basses-terres, on avait perdu environ 20 % de nos milieux humides. Ici, on prend les dernières données qui sont sorties récemment, ben, on peut penser que la perte est continue encore au même rythme qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Donc,
Mais la question est importante. En fait, la réponse plutôt est importante parce que, bon, on pourrait se dire, il y a 20 ans, on avait peut-être moins de sensibilité à ces questions-là, puis que les promoteurs s'en donnaient à cœur joie. Mais là, on a des grands discours, puis des énoncés politiques en disant il faut protéger les milieux humides, ça joue un rôle important de protection dans le cadre des changements climatiques. Ce que vous me dites ce matin, là, c'est que malgré le discours, là, on a quand même éliminé ces milieux à la même cadence.
Oui, en fait, le discours sur l'importance des milieux humides puis les pertes qu'on a, je dirais que ça date d'environ 30 ans. Moi, quand j'ai commencé mon doc, il y a longtemps, on en parlait déjà, c'était déjà une problématique. Ça restait beaucoup dans les discours scientifiques. Ça percolait un petit peu là au niveau médiatique. On a eu Laval, il y a eu beaucoup de... Donc, c'est pas récent. Ce qui est dommage, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a mis tout en place avec une nouvelle loi en 2017, ça, pour essayer de freiner ça. Et la loi, présentement, on ne peut que constater qu'elle n'est pas efficace ou qu'elle n'est pas utilisée efficacement. Et on a eu un super bon rapport du vérificateur général il y a quelques mois là-dessus qui démontrait toutes les lacunes, là, dans le fond.
Mais si je réponds, si je pose la question un peu bête, là, de façon suivante, je suis un promoteur, puis je veux construire un développement là, commercial, résidentiel, sur un espace de milieu humide. J'ai 98 % des chances que mon projet soit accepté par le ministère de l'Environnement, puis tout ce que je vais avoir à payer, c'est un surplus.
Oui, en fait, la loi, présentement, de la façon... En fait, c'est quand même un gain... Parce qu'il y a 5-6 ans, on détruisait 99 % des milieux humides, puis on n'avait rien en compensation. On protégeait des forêts, on protégeait des choses, mais on protégeait pas des milieux humides, on restaurait pas des milieux humides. La loi fait en sorte qu'au moins, là, on va chercher de l'argent dans l'espoir de restaurer, de compenser, tout ça. Mais la loi était aussi faite de sorte que ça devrait pas être aussi facile détruire les milieux humides. Théoriquement, les promoteurs doivent faire la démonstration qu'ils peuvent pas aller ailleurs dans la MRC. Mais souvent, la seule justification qu'ils donnent, ben, c'est le terrain nous appartient, puis on sait qu'un terrain avec des milieux humides va coûter moins cher qu'une ancienne friche industrielle qu'il faut décontaminer, tout ça. Donc, dans la loi, il y a une séquence qui avait été établie, éviter, minimiser, compenser, mais tout l'aspect éviter, on dirait qu'on l'a mis de côté politiquement, peut-être c'est plus simple. C'est plus facile d'accepter de dire que le promoteur, la maison des aînés, a dit ben moi, le gouvernement a acheté le terrain le moins cher possible. Ça donne qu'il y a des milieux humides, ben on est propriétaire, donc c'est là qu'on doit faire le projet plutôt que d'essayer de regarder ailleurs dans la MRC. Est-ce qu'il y avait des terrains disponibles? Sans milieux humides qu'on aurait pu construire.
Mais c'est un peu particulier de dire donnez-moi de l'argent pour me permettre de détruire un milieu humide, puis avec l'argent que je vous donne, vous irez restaurer des milieux humides.
Oui, en fait, la loi, c'est une loi de compensation. C'est le même principe qu'il y a aux États-Unis. C'est le même principe qu'il y a dans plusieurs pays autres, comme européens. Et si elle est bien appliquée, et si on arrête de diminuer les montants qu'on demande, oui, ça devrait freiner. Mais présentement, c'est pas ce qu'on trouve. C'est que les montants, il y a eu beaucoup de remises en question des montants. On diminue les montants parce que c'est trop cher. Donc, en théorie, ça devrait être un frein. Tu sais, quand ça te coûte 3 millions, parce que c'est pas 10 000, là. Ça peut être, par exemple, on se rappelle Molson qui voulait construire à Longueuil. C'est quelques millions qu'il devait payer. Mais théoriquement, quand ça devient ces montants-là, oui, ça devrait être un frein. De se dire, ben, peut-être que quand j'ai à choisir deux terrains, ben, je vais tout faire pour l'éviter, le milieu humide, puis le minimiser. Un promoteur immobilier, quand il a payé 3 millions, peut-être qu'il devrait. Mais là, la façon que c'est fait, c'est qu'on diminue les contraintes, on a diminué les coûts qui devaient être faits, on a extrait certaines, tout ce qui est agricole. Il y a beaucoup de choses agricoles qui ont été enlevées de la loi, justement, parce que ça coûtait trop cher. Fait qu'à la base, la loi, le principe de la loi fonctionne ailleurs. Il devrait fonctionner ici aussi.
Merci beaucoup, Mme Pellerin. Bonne journée.
De rien, merci.
Au revoir. Stéphanie Pellerin est botaniste au Jardin botanique de Montréal et chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale. Juste une dernière note au dossier. Selon les chiffres du Journal de Montréal, je viens de vous parler de vous payer, on prend l'argent puis on restaure des milieux humides. Au 31 mars 2022, 1,5 million de dollars ont été dépensés dans la restauration des milieux humides. Il y avait 116 millions de disponibles. 116 millions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pour 3 millions de projets. Ils vont faire quoi avec le 100 quelques millions qui restent? Nous avions invité le ministre Benoît Charrette à venir nous raconter cela, mais malheureusement, il n'était point disponible. Puis là, j'ai vu la cassette officielle du ministère là, qui dit que ça va très bien puis qu'il n'y a pas de problème. Mais avouons que c'est quand même assez préoccupant.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.